Et nous, chrétiens, qu'est-ce que ça veut dire, ce soutien d'Israël ? Qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui, soutenir Israël ? Ce que la Bible nous demande. Et en tant que chrétiens, nous avons incorporé l'Ancien Testament, le livre, la Torah, le livre des Juifs, comme parole de Dieu. Et tout ça, ça nous parle d'une nécessité d'un alignement. Alors, voilà quelques points. L'alignement, cette année, de façon tout à fait particulière, on a vécu cet alignement au niveau des fêtes. Rappelez-vous que normalement, les Juifs, ils ont leurs fêtes à des dates et les chrétiens à d'autres dates. Et pour la première fois, une des rares fois dans l'histoire, la fête de Pâques chrétienne correspond avec la fête de Pâques juive. C'était déjà quelque chose. Et la fête de Pentecôte chrétienne correspondait avec la Shavuot, la fête de Pentecôte juive, où nous étions la semaine dernière. Donc, cet alignement dans la matière, le calendrier, nous parle d'une intention de Dieu qui est à l'alignement de son Église avec son peuple. C'est ça que ça veut dire. Et en plus, les 70 ans d'Israël nous parlent aussi. 70 ans, vous savez, c'est un prophète, il priait par rapport à Israël qui était déporté en Babylone. Et puis, tout d'un coup, il se rappelle que la prophétie disait « Au bout de 70 ans, ce peuple sera libéré ». Et donc, il s'est mis à prier et à jeûner. Et puis, qu'est-ce qui s'est passé ? Le peuple a pu revenir. Il a été conduit, aidé par un roi Cyrus. Et ce Cyrus, roi de Babylone, c'était pas un homme qui était bon. C'était un homme qui vivait comme tous les Babyloniens, dans la débauche, etc. Mais Dieu l'avait utilisé. Donc, faisons attention en tant que chrétien. Dieu utilise parfois des gens. Ils ne sont pas forcément moraux, ils ne sont pas forcément dans l'éthique, mais Dieu les choisit pour une mission particulière. Il ne faut pas être à côté de la plaque. Là. Nous, on a vite tendance à juger. Donc, ces 70 ans nous parlent de sortir de la captivité. Voyez, c'est un chiffre important. Comme 40 ans pour Fabrice, c'est important aussi. 40 ans de désert, parfois, mais on rentre dans une terre promise. Il y a une terre promise pour toi, Fabrice. Voilà. Et donc, autre chose aussi, Dieu dit, celui-ci est mon peuple. Il parle du peuple d'Israël. C'est quand même pas rien. Dieu dit, c'est mon peuple. C'est mon peuple. Et il le dit de façon à maintes reprises, depuis le début des Écritures. Dieu s'identifie à Israël. Et comme il ne le fait pour aucun autre pays de la terre. Cette identification avec son peuple est absolument unique. L'histoire d'Israël, en fait, c'est l'histoire de Dieu. Toute l'histoire, c'est l'histoire de Dieu. Mais l'histoire d'Israël en particulier, et c'est son peuple qu'il s'est fait pour lui. Alors ça aussi, c'est un mystère. On ne comprend pas tout, mais c'est un peuple qu'il a fait pour lui. Donc l'identité et l'appel d'Israël est caché en Dieu et dans Jésus, qui est ce Messie. Et Israël, le but, la vocation d'Israël, c'était une bénédiction pour toutes les nations. Tiens, comme l'Église, décidément, même appel, même identité, même vocation. On a intérêt à s'entendre, comprenez ? Et ce n'est pas étonnant que pendant des siècles et des siècles, l'Église ait persécuté les Juifs. L'ennemi ne veut pas de cette entente. Et l'appel commun d'être une nation qui bénisse les nations, le rôle de l'Église de bénir les nations ne peut pas se faire au détriment de passer par la bénédiction d'Israël. Donc là, il y a quelque chose de particulier. Et donc Dieu a suscité Israël. On voit l'apôtre Paul dans Romains chapitre 9 à 11. Il parle des Juifs comme, on connaît bien le passage, hein, comme un olivier, un arbre, l'olivier avec de l'huile, la bonne sève qui coule. Et les branches, nous sommes des branches, les chrétiens sont des branches. Et malheureusement, dès les premiers siècles de l'Église, on a voulu se désolidariser et se couper de ses racines. Alors bien sûr, c'est un travail de l'ennemi qui ne veut pas que l'Église profite de cette... Vous voyez, ici, on voit l'olivier au milieu de la Torah. C'est l'éclairage de la Bible, l'éclairage de cette Torah. Alors cet éclairage, cet olivier, en fait, c'est le Messie lui-même. On ne peut pas comprendre les Écritures sans Jésus. Mais Jésus, il est juif. C'est ça qui est... Et il le revendique. Et ça, nous avons ici... quelque chose de caché. Et dans Romains 11, il est dit, par exemple, tout Israël sera sauvé. Alors ça, c'est des choses étonnantes. L'obscurcissement des nations a été voulu de Dieu par rapport à Israël en ce moment. Et puis l'éclairage d'Israël aujourd'hui, il y a comme un obscurcissement sur les nations, et puis c'est comme si une lumière se lève à nouveau sur Israël. C'est comme il y a un grand plan de Dieu dans Romains 11, mais qui nous montre le plan particulier. Dieu l'appelle les prémices, Israël. C'est les prémices. C'est le fils aîné de Dieu. Le fils aîné. Nous, nous sommes comme le fils prodigue. On vient à la maison, mais le fils aîné, il a le droit d'être à la maison aussi. Et donc, les deux, nous sommes deux fils de la même famille. Et donc, là, il y a quelque chose ici de très, très important. Ésaïe 62 nous dit, « Pour l'amour de Sion, je ne me tairai pas. Je ne me tairai pas. » Et pour l'amour de Jérusalem, je ne prendrai point de repos jusqu'à ce que son salut paraisse comme l'aurore et sa délivrance comme un flambeau qui s'allume. Alors les nations verront ton salut, tous les rois de ta gloire, et on t'appellera d'un nom nouveau que la bouche de l'Éternel déterminera. Tu seras une couronne éclatante dans la main de l'Éternel, un turban royal dans la main de ton Dieu. Alors regardez ici, le salut pour Jérusalem, Israël, amène, regardez, la délivrance. Alors les nations verront ton salut. Donc il y a un lien toujours étroit entre Israël et les nations. La bénédiction d'Israël conditionne la bénédiction des nations, etc. Donc on voit que les deux destins sont tout à fait liés. Et on ne peut pas, les Juifs ont été les prémices, on ne peut pas comprendre le Dieu de l'Alliance sans comprendre que cette alliance, elle est irrévocable par rapport à son peuple. Alors, juste 8 raisons, il y en a peut-être d'autres, hein, mais au moins 8 raisons de soutenir Israël. Et là, la première, c'est chaque croyant que nous sommes est chargé de faire des Juifs une priorité dans son système de valeurs, tout en rendant grâce de tout son cœur pour l'œuvre que Dieu accomplit à travers eux en tant que peuple. Vous voyez, dans la pensée de Dieu, il n'y a pas des chouchous, mais il y a une priorité. Et cette notion de priorité, parfois on ne la comprend pas bien dans notre système égalitariste. Mais il y a une priorité. On voit ça partout dans les Écritures. Quand Dieu dit, j'ai mis premièrement des apôtres, des prophètes, secondement des prophètes, etc. Il y a un ordre, premièrement. C'est pas une hiérarchie, mais c'est un ordre. Et les prémices, le peuple de Dieu est une priorité. Chaque croyant est chargé de faire des Juifs une priorité dans son système de valeurs. Pourquoi ? Parce que c'est Dieu lui-même qui le fait. Avoir la pensée de Dieu, c'est s'aligner à son cœur et à son cœur par rapport à son peuple. Alors, le Seigneur s'est choisi un peuple, ça commence par Abraham, et le but c'est de bénir la terre, bien sûr, tout entière. Et on voit ici que la postérité d'Abraham, on voit Genèse 12, l'Éternel dit à Abraham, va dans ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai, je ferai de toi une grande nation. Et je te bénirai, et je rendrai ton nom grand. Tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront. Je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Il faut savoir que cette culture de la bénédiction, c'est unique dans l'histoire des nations. La culture de la bénédiction nous vient de l'héritage des Juifs. Le fait de bénir ses enfants, le fait de bénir la terre, le fait de bénir ses voisins. Pour nous, ça paraît un peu, en tant que chrétiens, bon, oui, c'est normal, mais c'est tout à fait unique, cette culture-là. Et cette culture de la bénédiction, elle nous a été transmise par ce peuple juif qui, tous les jours, chaque sabbat, bénit, 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 bénit. Vous allez dans une synagogue, chaque samedi, vous avez la bénédiction pour les autorités, pour le président, pour les députés. Vous avez la liste, et c'est chaque fois, c'est fait régulièrement. Donc, il y a une culture de la bénédiction, mais Dieu dit, voilà, Abraham, je te bénirai, et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront. Alors attention, parfois on peut tomber dans le travers. Moi j'ai connu des gens qui disent oui, il faut bénir Israël pour être béni. Alors là, c'est un peu, vous voyez. Ah oui, je vais à l'église pour être guéri. Vous voyez, je vais à l'église pour être béni. Tu vois. Dieu veut bénir, mais attention à la motivation. Parce qu'il y a des temps dans l'histoire où se tenir aux côtés d'Israël, c'est pas être béni comme on l'entend. C'est être critiqué, c'est être mis de côté. Voilà. Donc attention, comment on envisage la bénédiction, en tout cas ce n'est pas la définition postmoderne, tout va bien, j'ai aucun problème, aucune souffrance, c'est ça la bénédiction. Ce n'est pas ça la bénédiction. Ensuite on voit aussi dans Ésaïe 49,3, il m'a dit « Tu es mon serviteur, Israël en qui je me glorifierai. Ça me fait penser à l'article 49.3 du Code civil. Bon, ça c'est autre chose. Mais c'est, on dégaine quand il y a un problème pour débrayer, vous voyez. Et bien là, c'est le 49.3 de Dieu. Tu es mon serviteur Israël et je me glorifierai en toi. Tu es mon fils aîné. Et donc le fils aîné nous parle de relations intimes. Et en tant que serviteur de Dieu, les Juifs sont appelés à être les leaders de l'humanité. Donc c'est un peu mystérieux, mais c'est cette alliance d'éternel. Alors l'alliance que Dieu a faite avec Israël, avec Abraham, c'est pas seulement avec un peuple, mais c'est avec une terre. Et ça aussi, vous voyez, parfois on a tendance à tout spiritualiser. On dit oui, il faut aimer les gens, les affaires de ce monde, la terre, ça sert à rien. Mais Dieu est le Dieu du ciel et de la terre. Et donc pour lui c'est important la terre. C'est pas un Dieu désincarné, il est venu à Jérusalem. Il reviendra à Jérusalem. Si pour lui, ce n'était pas important les lieux, tout ça, il nous l'aurait dit. Il dit, oh, dans cette ville ou dans une autre, je reviendrai, mais ce n'est pas grave, au hasard comme ça. Hein, comme les descentes de satellites, on ne sait jamais où ils vont tomber. Mais Jésus a dit, je reviendrai, mes pieds seront sur le mont des Oliviers, dans la ville que j'aime. Ça c'est particulier. On se dit, mais c'est étonnant. Et donc Dieu nous appelle à nous aligner avec cette pensée. Dans Deutéronome 7, il est dit « Ce n'est point parce que vous surpassez en nombre tous les peuples que l'Éternel s'est attaché à vous, qu'il vous a choisi, car vous êtes le moindre de tous les peuples. Mais c'est parce que l'Éternel vous aime, parce qu'il a voulu tenir le serment qu'il avait fait à vos pères. L'Éternel vous a fait sortir par sa main puissante, vous a délivré de la maison de servitude, de la main de Pharaon, roi d'Égypte. C'est parce que je vous aime. » Voyez, c'est un peu, c'est pareil aussi pour nous. Hein, Dieu nous dit « Moi je te délivre parce que je t'aime. » Et c'est ce même cœur qu'on voit. Donc voilà, alors les Israélites, c'est l'apôtre Paul qui dit à qui appartiennent l'adoption, la gloire, les alliances, la loi, le culte, les promesses et les patriarches. Et de qui est issu selon la chair le Christ qui est au-dessus de toutes choses, Dieu béni éternellement. Ce sens profond, l'alignement de Paul, alors il était déjà juif lui-même, mais l'alignement de Paul avec Israël était tel qu'il a sorti cette chose effrayante. Il a dit, je préférerais être séparé de Dieu et que mes frères soient sauvés. Que Israël reconnaisse son Messie. Et si le prix à payer, c'est que je sois séparé. Imaginez, c'est incroyable cette histoire. Il était plus qu'à donner sa vie. Mais comme sa position de vie éternelle, qu'il ne peut pas faire bien sûr. Mais c'est pour vous dire cet attachement profond à ce peuple. Et pourtant, il leur est rentré dedans quand il fallait. Et quand il avait devant lui les pharisiens, les légalistes, il leur rentrait dedans. Être aux côtés d'Israël, c'est pas redevenir légaliste ou pharisien. Hein. Le salut vient des Juifs, a dit Jésus. C'est une parole de Jésus à la Samaritaine. Il lui dit, comment est-ce qu'on peut adorer? Alors Dieu, mon Père, il cherche des adorateurs en esprit, en vérité, mais le salut vient des Juifs. Mais c'est incroyable, ça. Quelle parole! Rien que cette parole, quand on voit les siècles d'histoire de l'Église, personne, on dirait qu'ils ne l'ont pas compris, qu'ils l'ont gommé. Parce que les Juifs, on l'a dit, c'est ceux qui ont tué le Christ, il faut les persécuter et tout ça. Mais le salut vient des Juifs. Et donc là, il y a quelque chose que Jésus lui-même, une parole qui retentit à nouveau. Parce que le salut, ce n'est pas seulement une vie éternelle, une réconciliation avec Dieu. Le salut, c'est le plein salut dans la vie, dans le monde, dans ta profession, dans tes amis. Le salut de Dieu englobe tous les aspects de la vie. Alors, être lié au peuple et à la terre, ça c'est important. La terre, c'est quelque chose d'essentiel. Et je crois que nous aussi, en tant qu'Église, il est clair que les lieux que Dieu nous donne sont des lieux de combat. On en sait quelque chose au niveau de Josué. On en sait quelque chose au niveau de l'établissement Daniel. Tant que vous parlez d'une vision, ça ne dérange pas tellement. Mais quand vous commencez à bâtir, à construire, à implanter, à prendre de la terre, à acheter, alors là, mes amis, ça bouge. Là, il y a quelque chose qui bouge. Parce que c'est quelque chose du ciel qui vient sur la terre. Donc c'est très important cette dimension. Donc être lié au peuple et à la terre, notre place dans l'ordre divin actuel, nous lie inextricablement aux Juifs en tant que peuple, mais aussi au pays d'Israël, comme le dit la parole. Donc les Écritures déclarent que spirituellement parlant, lorsque vous recevez le Seigneur, vous devenez juif. Est-ce que vous savez? Je n'allais pas dire, dites à votre voisin, tu es juif. Mais la Bible, elle dit ça, regardez. Romains 2, le juif, ce n'est pas celui qui en a les dehors Et la circoncision, ce n'est pas celle qui est visible dans la chair, mais le juif, c'est celui qui l'est intérieurement. Et la circoncision, c'est celle du cœur, selon l'esprit et non selon la lettre. La louange de ce juif ne vient pas des hommes, mais de Dieu. Donc l'apôtre Paul nous dit, quand tu es au Seigneur, tu es juif. C'est important ça, faut réfléchir un peu. Alors, Galates 3, alors il n'y a plus ni juif ni grec, ni esclave ni libre, il n'y a plus ni homme ni femme, car vous êtes tous un en Jésus-Christ. Et Jésus-Christ réconcilie les peuples, et nous sommes un en lui, il fait un homme nouveau avec les juifs au Seigneur. Et nous, si vous êtes à Christ, vous êtes la postérité d'Abraham, héritier selon la promesse. Donc cet enracinement, nous sommes ici dans les premiers écrits de la première église, qui pour elle, bien sûr, c'était absolument évident que l'Église est enracinée dans le peuple juif. La première Église était composée uniquement de juifs. Les premiers apôtres étaient tous juifs, 100%. Et donc, nous avons cet héritage. Donc, Lévitique, lorsque Dieu dit « Les terres ne se vendront pas à perpétuité, car le pays est à moi. » Donc ça, on le retrouve souvent. « Ce pays est à moi, » dit Dieu. Et donc, il y a quelque chose de tout à fait particulier. Et la génération qui a vécu 1948, je me rappelle, dans ma famille, j'ai des gens qui ne sont pas du tout, en particulier une tante, pas du tout, elle en avait marre, tout ce qui est bondieuserie, elle avait fait des écoles religieuses, elle n'en pouvait plus. Mais le jour où le peuple d'Israël est revenu sur sa terre, elle a été complètement ébranlée. Et elle a dit, mais Jésus revient bientôt. C'est dans ma famille, ça, des gens qui n'étaient pas pratiquants ni rien. Il y a une marque qui était là. Tout le monde a été surpris, étonné. Est-ce qu'un pays peut naître en un jour comme ça? C'était tout à fait particulier. Et Dieu dit dans Genèse, j'établirai mon alliance entre moi et toi, entre tes descendants après toi, selon leur génération. Ce sera une alliance perpétuelle en vertu de laquelle je serai ton Dieu et celui de ta postérité après toi. Je te donnerai, et à tes descendants après toi, le pays que tu habites comme étranger, tout le pays de Canaan en possession perpétuelle, et je serai leur Dieu. Donc cette notion du pays est très importante. Et pour nous, par exemple, si tu es français, ton héritage, c'est la France. Si tu es alsacien, ton héritage, c'est l'Alsace. Avec Manuela, on se disait souvent dans l'église ici, on a dit, en tant qu'alsacien, on a un double héritage. Et elle me disait hier, non, on n'a pas un double, on en a un triple. Alors je dis, tiens, je croyais que le double, c'était l'Allemagne, la France. Double héritage, c'était déjà bien. Mais non, elle dit un triple. L'héritage juif sur cette terre, c'est aussi l'héritage de Dieu. Et les communautés juives, pendant longtemps, ont favorisé la prospérité de cette région. Donc Dieu est un Dieu de pays qui renie pas ses alliances. Il ne dit pas, tiens, je te donne. Ah ben non, maintenant, tiens, je te reprends. Tiens, je te donne. Tiens, je te reprends. C'est pas... Dieu est un Dieu d'alliance. Au niveau des générations, il garde son alliance. Donc le quatrième point, le conflit auquel Israël fait face aujourd'hui n'est pas le fait de leur propre initiative, encore moins de leur propre désir d'expansion. Parfois, on leur met sur le dos des choses qu'ils ne sont pas. Et donc, alors attendez, où j'en suis là? Voilà. Donc, par exemple, le conflit qu'on a actuellement avec les Palestiniens, c'est vraiment quelque chose de... Je ne sais pas ce que vous entendez dans les médias, mais il y a quelque chose de tragique, bien sûr, dans ce conflit. Mais ce qu'on ne nous dit jamais, c'est ces millions de Juifs qui ont dû quitter du jour au lendemain la Syrie, l'Irak, les pays arabes. Sinon, ils étaient massacrés. Des centaines de milliers qui ont été prisonniers, massacrés dans tous les pays arabes. Et pour eux, il n'y a pas de droit de retour. Il n'y a pas de droit de retour pour eux. Personne n'en parle. Mais ils ont quitté leur pays, ils étaient juifs irakiens, juifs syriens. Mais cela, personne ne parle d'un droit de retour. Donc il y a souvent deux poids, deux mesures, et c'est malheureux. Et c'est malheureux. Et je pense qu'on a une initiative de Dieu de dire, mon peuple, reviens dans ta terre. Alors bien sûr, il y a des côtés humains, il y a des côtés injustes, il y a des choses mal faites. Hein, et voilà, on reste des hommes, mais attention, attention. Voilà, et il y a plus d'un million d'Arabes accueillis, alors que ces Palestiniens, aucun pays d'Arabes ne veut les avoir. C'est quand même étonnant. On les garde dans des camps depuis des générations. Et voilà, et quand vous allez à Jérusalem aujourd'hui, vous voyez l'adoration, les Juifs peuvent adorer au mur. Quand nous étions 80 000 musulmans étaient allés sur la mosquée pour adorer dans la liberté, d'accord ? Mais quelques années avant, C'était interdit pour les Juifs d'adorer sur ce lieu. Il n'y avait pas de liberté de culte. Pour la première fois dans l'histoire à Jérusalem, depuis qu'Israël est là, il y a la liberté de culte pour les chrétiens, pour les Juifs, pour les musulmans. Donc, ce n'est pas parfait, hein, c'est pas, voilà. Mais attention, je pense que ce n'est pas eux qui ont le désir d'expansion. Ce n'est pas eux qui ont dit, voilà, on va prendre une terre, on va chasser des gens. Non, c'est une question de survie et il y a une volonté de Dieu aussi derrière. Donc voilà, j'aimerais vous montrer maintenant cette création légale de l'État d'Israël. J'espère que ça va marcher. Voilà, c'est Ben Gourion. Donc le lendemain, il y avait la guerre et tous les pays arabes qui ont foncé sur Jérusalem pour éradiquer ce peuple et le conduire à la mer. Aujourd'hui encore, quand on entend les discours des nations avoisinantes, des interviews, hein, qu'est-ce que les Juifs, l'État juif, il faut les mettre dehors, on veut les pousser à la mer et on fera tout pour ça. Donc il y a une haine qui est là, qui n'est pas rationnelle, c'est une haine depuis des millénaires qui est là. Et en tant que chrétien, il faut faire attention. Nous, il y a une montée de l'antisémitisme en Europe comme jamais, et elle est subtile. Et elle est subtile. Et de même façon que le peuple allemand s'est fait avoir, les luthériens, les réformés, ils sont devenus rapidement antisémites. On se dit, mais comment c'est possible? Donc je crois que soyons attentifs. Ah oui, pardon. Soutenir Israël ne suffit pas à s'opposer au peuple arabe en tant qu'entité ou s'opposer aux droits des Arabes vivant en Israël à une vie paisible, politiquement sûre et prospère. Je rappelle qu'au niveau des chrétiens, au niveau des Arabes, c'est là où il y a le plus de chrétiens, encore au Moyen-Orient, en Israël aussi. Donc on a des frères et sœurs, bien sûr, arabes. Et donc être pour Israël, ce n'est pas être contre les Arabes. C'est souvent là il y a quelque chose qui ne va pas. Et on se rappelle le témoignage de Rania de Nazareth. C'est une femme, une arabe, qui s'est convertie, qui a donné son cœur à Jésus. Et il y a eu un renversement tout d'un coup. Le Seigneur lui a montré que Israël, c'était son peuple. Et qu'elle a eu le cœur de Dieu renversé. Et elle a dit, mais moi, toute cette haine qu'on m'a inculquée depuis petite, et la conversion à Jésus a fait une conversion radicale par rapport au positionnement. Donc elle tient une maison de prière maintenant à Nazareth. Et c'est une femme absolument... remarquable. Donc voilà, attention. Alors, par rapport à la restauration de l'État d'Israël, c'est Ézéchiel 37 qui s'accomplit sous nos yeux. Les ossements, les simions de juifs morts, les ossements desséchés, et le prophète qui dit, prophétise sur ces eaux, ils vont reprendre vie. Et la première phase, c'est la restauration physique. Il y a des os, il y a de la chair, il y a des muscles, c'est l'Israël physique. Bien imparfait, bien sûr. Pas éthique, parfois. On dit, on a le problème avec ça. Mais mais Dieu restaure, mais il n'y a pas encore l'esprit. Mais il y a l'être de chair qui est en train, la nation se lève. Et combien elle se lève, je peux vous dire. On a rencontré des jeunes à Jérusalem, des trentenaires qui étaient venus des États-Unis, qui avaient tout lâché, qui ont démarré des start-up au niveau informatique. Ce brassage de tous les peuples, c'est absolument unique. C'est unique. Ces couleurs, marocaines, Afrique, Asie, les Chinois, les Russes par millions. Et ils brassent là-dedans. C'est comme dans un petit territoire, vous avez toute l'humanité, toutes ces cultures qui se mélangent ensemble et ça donne quelque chose de tout à fait particulier. Donc il y a bien sûr une guerre spirituelle, on en est bien conscient. Et cette guerre spirituelle, elle est là depuis tellement longtemps. Et ces puissances spirituelles, elles veulent éradiquer le pays d'Israël. Et c'est malheureusement l'histoire de l'antisémitisme depuis l'origine. Et depuis, lorsque l'Église a commencé à fleurir, les leaders juifs des premiers siècles, les uns après les autres, il y avait une persécution, avec les Romains en particulier, etc. Et les leaders sont morts ou ont été persécutés. De plus en plus, des leaders, des gentils sont venus. Et puis au IIIe siècle, IIe, IIIe, déjà on commence à voir cette scission. On ne veut pas s'aligner au peuple juif, c'est eux qui ont tué Jésus, tout ça. Et on va se séparer les uns des autres. Les pères de l'Église qui ont dit d'excellentes choses aussi, mais il y a tellement de sermons contre les juifs. Juste le grand saint Augustin aussi, il a écrit sur la base d'un psaume qu'il ne faut pas tuer des juifs, mais les condamner à la dispersion, à l'humiliation, en signe de victoire de l'Église sur la synagogue. Cette condamnation à la servitude éternelle sera maintenue pendant des siècles, dit-il. Ils ne seront pas tués, mais constamment persécutés, afin de montrer aux chrétiens le sort réservé à ceux qui renient Jésus. Voilà le genre de truc. Hein. L'Église, Nouvelle Israël, le beau mensonge. Et puis, on compte dans l'histoire de l'Église, on compte à peu près. Il y a eu 6 millions de juifs morts à la Shoah. On compte à peu près 30 millions de juifs tués par les chrétiens dans l'histoire. C'est beaucoup plus que les 6 millions, 30 millions. Et donc, je cite Césarée, Grégoire de Nice, « Les Juifs sont une assemblée de démons. » Je cite, hein, « Les assassins du Christ. » Saint Hilaire de Poitiers, 4e siècle, il décrit les Juifs comme un peuple pervers que Dieu a maudit à jamais. Ensuite, les croisades, j'en passe, 1099, ils arrivent à Jérusalem, ils remplissent la synagogue avec 1000 Juifs à peu près, ils mettent le feu. Et ils défilèrent autour sur des chevaux en chantant des hymnes chrétiens. Ça, c'est les croisades. Hein. Donc ça a continué comme ça, sans arrêt. Et puis la réforme, on pourrait dire, mais la réforme, ils reviennent à la parole, donc ils vont comprendre. Et Martin Luther, il s'est dit au début, mais avec la réforme, les juifs, ils ne peuvent que se donner à Jésus. Ils ne peuvent que reconnaître toutes ces superstitions catholiques. On s'en débarrasse et ils vont enfin connaître le vrai évangile. Donc ils vont se donner au Seigneur. Donc il était très gentil avec eux au début. Puis il a vu que ça ne marchait pas. Les synagogues restaient des synagogues. Les juifs ne voulaient pas de cette foi chrétienne, de ce Messie, reconnaître en Jésus le Messie. Alors il a commencé à changer de ton. Et il a fait un appel à la persécution et la destruction des synagogues en 1533. Et Luther, il a écrit un livre, c'est que des insultes. Il a dit les juifs, assassins des prophètes, diables incarnés, séducteurs du peuple, nids de vipères, usuriers, étrangleurs, ventre mou, racailles puantes, levain moisi. Que quiconque qui entend un juif prononcer le nom de Dieu, qu'il le dénonce au magistrat ou qu'il lance des boulettes d'excréments de porc et le chasse comme un chien. Ça, c'est Luther dans le livre « Les Juifs et leurs mensonges ». Donc, je pourrais continuer, hein, aveugle, maudit, vindicatif, j'ai des pages. Et donc, Luther, c'était un des premiers à déclarer qu'il fallait se débarrasser des Juifs en les tuant tous. Ce n'est pas étonnant que lorsque le nazisme viendra, et que la nuit de cristal qui démarre la persécution des Juifs, c'est le jour d'anniversaire de Martin Luther. Ils ont surfé sur cette racine d'antisémitisme qui était là depuis tellement longtemps et qui était bien sûr aussi en France. Alors voilà un peu la réforme. Décidément, catholicisme, protestantisme, eh bien voilà malheureusement. Alors il n'y a pas eu que ça et j'aimerais quand même dire qu'en Allemagne, il y a des pasteurs qui se sont élevés contre cela, mais ils ont été bien, bien faibles. Je passe à Dietrich Bonhoeffer, ce jeune pasteur luthérien qui a choisi de faire une église clandestine. Parce que Hitler, il disait, on va vous protéger du communisme, de ces sauvages-là qui vont venir. Donc, nous, on va maintenir les valeurs chrétiennes. C'était intéressant. Hein, on maintient les valeurs chrétiennes. Le mariage, tout ça, les valeurs, voilà. Et puis les gens, les chrétiens, disaient, bah oui, face au péril rouge, bah tiens, on va... Voilà. Et donc, c'était subtil. Mais Bonhoeffer, c'était ce pasteur qui a dit, je ne suis pas d'accord avec ce racisme. Et il a commencé à élever une voix, et je cite quelque chose, « L'Église n'est réellement l'Église que quand elle existe pour ceux qui n'en font pas partie. » Vous vous rendez compte ? L'Église n'est vraiment l'Église que si elle existe pour ceux qui n'en font pas partie. Le devoir inconditionnel de l'Église est de s'occuper des victimes de tous les systèmes sociaux, même s'ils n'appartiennent pas à la communauté des chrétiens. Et puis je termine. Celui-là seul qui crie en faveur des Juifs a le droit de chanter du grégorien. C'est Bonhoeffer. Donc nous avons ici, il a donné sa vie quand même. Il a perdu sa vie. Ça a été pas rien, mais il s'est engagé dans une lutte contre Hitler. Une lutte réelle. Hein.
Ouais. Ça fait plusieurs jours que j'en suis dans Romains, et ce matin j'étais dans Romains 11, et ça fait déjà un moment où je réalisais que le peuple juif a été enfermé dans l'aveuglement et dans la désobéissance afin que nous puissions rentrer. Hein. C'est très bien écrit dans le livre des Romains, vous pouvez le relire. Et il dit qu'ils ont été aveuglés afin que nous puissions rentrer. Et si on regarde bien, l'Église a été imbue d'elle-même, se croyant qu'elle, elle était plus forte, remplie de sa propre justice, de ses propres œuvres. Et c'est comme si le Seigneur avait aveuglé aussi l'Église par rapport à Israël. Et on voit ça très bien dans Romains 11, où il dit « Autrefois, vous n'avez pas obéi à Dieu, mais maintenant Dieu a eu pitié de vous. » Parce que les Juifs n'ont pas obéi. Pour eux, c'est la même chose maintenant. Ils n'ont pas obéi à Dieu pour que Dieu ait pitié de vous. Alors maintenant, eux aussi pourront recevoir la pitié de Dieu. Alors dans d'autres versets, il est dit, tous ont été enfermés dans la désobéissance. Dieu a permis que tous les êtres humains refusent d'obéir pour montrer à tous sa piété. Et le Seigneur veut nous amener tous au jour d'aujourd'hui. De voir qu'il n'y en a pas un, pas même un seul, qui est capable de se sauver par ses propres œuvres, par sa propre justice, et que tous, nous avons été enfermés dans la désobéissance, afin que tous, à nous tous, il puisse nous montrer sa piété. Et on est vraiment encore dans ce temps, dans cette fenêtre ouverte, où l'on peut venir, où on peut reconnaître Christ, où on peut s'aligner, c'est encore aujourd'hui le jour du salut. Et on a un Père incroyable. Avant même la fondation du monde, il y avait ce sacrifice saint pour tous, pour les Juifs et pour les non-Juifs. Moi, ça fait des mois que je suis travaillée par ça. Je me dis, mais Seigneur, mais quelle sagesse! Tu nous as tous enfermés dans cette désobéissance pour que tous nous ayons, qu'il n'y en ait pas un qui se glorifie, les Juifs ne peuvent pas dire on est meilleur quand on voit, voilà. Et nous chrétiens, on n'est pas meilleurs non plus, on ne peut pas se glorifier non plus parce que quand on voit notre histoire. Mais de tout ça, il faut retenir qu'à nous tous, il veut nous révéler sa piété, sa bonté, son saint sacrifice, sa grâce qui nous sauve par la foi. Ça veut dire accepter qu'il a payé pour chacun de nous. Et s'il y en a un aujourd'hui ici qui n'a pas encore fait ce pas de dire Jésus, oui, je t'accepte comme sauveur. Et Seigneur, c'est encore le temps de le recevoir. Et quand moi j'ai reçu Christ comme Sauveur et Seigneur, on est reconnecté avec son Saint-Esprit et la lumière de Dieu entre dans notre esprit. Et ça change nos vies, pas en un jour, c'est un processus. Mais c'est extraordinaire l'amour de notre Dieu.
Donc vous voyez, c'est qu'on n'est pas indemne de toute cette 2000 ans d'histoire de l'Église. Et il y a l'antisémitisme aujourd'hui, c'est parfois simplement l'indifférence, vous voyez. L'indifférence, la sorte de neutralité, c'est une racine d'antisémitisme. Hein. La passivité, attitude négative, esprit de supériorité, suspicion, fausse théologie, on pourrait en passer d'autres. Voilà, ça c'était Bonhoeffer, les citations que je vous ai données tout à l'heure. Et dans chaque nation, il y a toujours une sorte de reste qui prend position pour le peuple Dieu. Voilà, donc le même esprit qui contrôle cette animosité s'oppose aussi aux chrétiens. Et il faut savoir que cet esprit qui ne supporte pas Israël, il ne supporte pas les chrétiens non plus. Et Bonnefère avait vu juste. Il a dit, si nous, on ne se met pas du côté des juifs, après c'est notre tour. Et il y a un pasteur qui disait ceci, c'est un résistant allemand, qui s'appelle le pasteur Niemöller. Il a dit cette phrase célèbre, d'abord ils sont venus pour les juifs, et je n'ai rien dit, je n'étais pas juif. Puis ils sont venus pour les communistes, je n'ai rien dit, je n'étais pas communiste. Puis ils sont venus pour les syndicalistes, je n'ai rien dit, je n'étais pas membre d'un syndicat. Puis ils sont venus pour moi, et il ne restait plus personne pour parler en mon nom. Donc ça, c'est le témoignage d'un des résistants au nazisme. Donc je dis ça parce qu'en tant qu'Église, les temps changent, l'antisémitisme grandit, et il faut être très au clair sur cette chose-là et notre alignement nécessaire. Le devoir biblique et la promesse, c'est la huitième raison, nous invite à prendre position par la foi, à intercéder avec espérance, à soutenir la promesse. Psaume 122, on peut le lire simplement, hein, Cantique des degrés de David. Je suis dans la joie quand on me dit, allons à la maison de l'Éternel, nos pieds s'arrêtent dans tes portes, Jérusalem. Jérusalem, tu es bâtie comme une ville dont les parties sont liées ensemble. C'est là que montent les tribus de l'Éternel, selon la loi d'Israël, pour louer le nom de l'Éternel. Car là sont les trônes pour la justice, les trônes pour la maison de David. Demandez la paix de Jérusalem. Que ceux qui t'aiment jouissent du repos. Que la paix soit dans tes murs, la tranquillité dans tes palais. À cause de mes frères et de mes amis, je désire la paix dans ton sein. À cause de la maison de l'Éternel, notre Dieu, je fais des vœux pour ton bonheur. Voyez cet attachement du roi David, mais aussi, je pense, de tout chrétien, par rapport à prier pour la paix de ce pays et de Jérusalem. Et ça, ça demande un témoignage d'espérance chaque fois. Je termine par... nous étions donc à Jérusalem il y a 2 semaines, et le prophète Michée parle de ces temps qu'on vit aujourd'hui. Et il dit dans la suite des temps que la montagne de la maison de l'Éternel sera fondée sur le sommet des montagnes, qu'elle s'élèvera par-dessus les collines et que les peuples y afflueront. Des nations s'y rendront en foule et diront, venez, montez à la montagne de l'Éternel, à la maison du Dieu de Jacob, afin qu'il nous enseigne ses voies et que nous marchions dans ses sentiers. Car de Sion sortira la loi et de Jérusalem la parole de l'Éternel. Et j'ai réalisé dernièrement que souvent je disais que le mot enseigner, ça veut dire être porteur de signes, enseigner, hein, être un signe pour cette jeune génération. Mais en fait, ce mot-là veut aussi dire aussi sillon, être un signe. C'est la même racine que la notion de sillon. Et genre, je crois qu'il y a, la loi sortira de Sion. Il y a quelque chose dans ce peuple, dans ses racines, dans cette alliance avec ce peuple qui est absolument étonnant et qui va amener, je pense vraiment, une nouvelle réforme. Voilà les quelques photos. La semaine dernière, je vous avais montré quelques vidéos, quelques photos de la Marche des Nations, donc 50 nations qui proclamaient leur... qui bénissaient cette ville de Jérusalem et ce peuple d'Israël. Nous étions aussi avec des gens d'Israël qui étaient là. Et voilà un peu, vous voyez Manuela à gauche, on voit Marie-Christine avec la petite casquette là, grand. Et puis on voit aussi Jean-Marc, voilà. Et voilà. Et moi je prends la photo là, donc voilà. Mais ça a été un moment très fort. Et j'aimerais juste terminer par cette déclaration qui a été faite suite à ces marches. Et écoutez cette déclaration, je pense que c'est quelque chose d'historique. Hein. Voilà, je la lis. La Marche des Nations a pour devise de la Shoah à la nouvelle vie. En effet, 3 ans seulement après la fin de la Shoah, Dieu accomplissait ses anciennes promesses bibliques. 70 ans plus tard, l'existence d'Israël est le plus grand miracle de notre époque. Nous venons de 40 nations à l'occasion du 70e anniversaire de la fondation d'Israël à Jérusalem, en accord avec la parole de Michée 4.1.2. C'est ce que je viens de lire tout à l'heure. Hein. Donc la montagne de la maison d'Éternel sera fondée sur le sommet des montagnes. Elle s'élèvera par-dessus les collines, que les peuples y afflueront. Des nations s'y rendront en foule et diront, venez, montez à la montagne de l'Éternel, à la maison du Dieu de Jacob, afin qu'il nous enseigne ses voies, que nous marchions dans ses sentiers. Car de Sion sortira la loi, de Jérusalem la parole éternelle. Nous venons honorer le peuple juif et Israël. En même temps, en tant que chrétiens, nous confessons notre culpabilité au peuple juif. En effet, les hommes les plus influents, fondateurs de l'Église primitive, les pères de l'Église, se sont déjà distancés du peuple juif dès le 2e siècle, et cela en contradiction totale avec le témoignage biblique. Parmi eux se trouvaient les pères de l'Église, honorés, respectés, comme Origène, Athanase d'Alexandrie, saint Ambroise, Joseph de Césarée, le premier empereur romain Constantin, saint Augustin, Jean Chrysostome, beaucoup d'autres. En raison de la tragédie des deux guerres juives perdues, 70 et 135 après Jésus-Christ, avec la destruction du temple de Jérusalem et la dispersion mondiale du peuple juif, ils sont presque toujours parvenus à la conclusion fatale que Dieu considérait pour toujours les juifs comme les meurtriers du Christ et qu'il le rejetait à jamais. Ils déclarèrent ainsi que l'Église avait pris pour toujours la place d'Israël en tant que porteur des promesses de Dieu. Ils répandirent sans fard la haine des Juifs à travers leurs sermons et leurs écrits. Ils maudirent le peuple juif et répandirent des mensonges et des rumeurs malveillantes. Ils jetèrent les bases de la privation croissante de leurs droits, des pogroms, la persécution, les incendies de synagogues. Ils déclenchèrent le feu de l'antisémitisme, la haine des Juifs, qui ont causé l'assassinat de plus de 13 millions de Juifs à partir de 70 après Jésus-Christ. Oui, donc là, il est question de 13 millions. Bon, il y a deux. En tant que chrétiens de toutes les églises et dénominations de tous les pays et nations, nous avons cette racine commune et diabolique qui se situe dans l'histoire de l'Église des premiers siècles. Partout où le message chrétien fut porté et répandu, la semence de l'antijudaïsme chrétien s'est répandue dans tous les pays. Quant aux églises et aux dénominations nouvellement établies, elles ont hérité généralement des graines mortelles de l'antijudaïsme. Nous confessons que depuis le IIe siècle, les chrétiens sont devenus la source et le moteur de la persécution des juifs sous le signe de la croix. Consciemment ou inconsciemment, nous avons assimilé la semence destructrice de l'antijudaïsme des pères de l'Église et nous avons toujours porté en nous. Dans le cœur de nombreux chrétiens du monde entier, cette graine d'antijudaïsme et de haine envers les juifs se manifeste encore aujourd'hui sous la forme d'indifférence, de distance intérieure, de préjugés à l'égard du peuple juif et d'Israël. Courbés sous le poids de la honte, nous chrétiens, nous nous repentons devant Dieu et le peuple juif et nous demandons pardon du fond du cœur. Nous reconnaissons que l'alliance de Dieu avec Abraham est une alliance éternelle qui n'a jamais été résiliée. Que le peuple juif et la terre d'Israël sont aimés et choisis par Dieu. Que le peuple juif est choisi en tant que peuple aimé de Dieu, en tant que premier-né et en tant que serviteur pour apporter la révélation au monde comme une lumière et devenir une bénédiction extraordinaire pour toutes les nations et tous les peuples. Nous déclarons, d'après Genèse 12, 1, 3, la terre d'Israël avec pour capitale Jérusalem fait partie de cette élection. Nous venons aujourd'hui de beaucoup de nations et de peuples, selon Michée 4, 1, 2, jusqu'à la montagne du Seigneur, et déclarons que nous ne voulons plus considérer avec mépris, indifférence ou arrogance l'alliance de Dieu avec le peuple juif et avec la terre d'Israël. Nous voulons humblement respecter, aimer, honorer et être enseignés, selon Michée 4, 2, car de Sion sortira la loi et de Jérusalem la parole éternelle. Aujourd'hui, nous voulons exprimer ensemble notre solidarité, notre respect, notre appréciation, notre amitié et notre amour pour le peuple juif et pour la terre d'Israël. Nous croyons que d'Israël des nations seront bénies. C'est pourquoi nous proclamons « Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. Élevez vos voix contre l'antisémitisme, la haine des juifs. Soyez du côté d'Israël dans l'amitié. Devenez lumière, unis pour être une lumière. Israël doit vivre. » Voilà. Ça, c'était cette déclaration. Donc voilà ce que je voulais poser comme à la fois retour de ce voyage et fondement par rapport à notre communauté, à l'Église Josué, et j'espère à plus que ça, au-delà. Et ça, j'espère que chacun, il faut aller plus loin dans cette quête, dans ces fondations. Il y a longtemps qu'on n'a pas parlé de ce sujet. Je crois que c'est vraiment capital et important. On veut simplement prier et se mettre devant Dieu et se laisser interpeller par cette déclaration. Et Seigneur, nous venons à toi en tant qu'Église Josué, et Seigneur aussi conscient de cette histoire dans le monde protestant en particulier, dans le monde évangélique, dans le monde catholique, toutes ces racines d'antisémitisme. Seigneur, nous simplement pardon, nous reconnaissons cela, et nous recevons ton pardon par le sang de l'agneau. Et nous prions que, en tant que communauté, tu nous donnes d'être alignés avec toi, avoir une pensée claire sur ton plan dans l'histoire et pour ce peuple juif. Et nous voulons être, comme disait Bonhoeffer, solidaires et aux côtés des plus faibles. Et Seigneur, nous voulons être ce lien, aimer tous les peuples, arabes bien sûr compris, être une bénédiction pour toutes les nations, mais comprendre la priorité et nous lever contre tout antisémitisme dans le nom de Jésus. Seigneur, que tu aide-nous sur ce chemin, Seigneur. Et nous croyons que l'héritage d'Abraham est pour nous aussi quand on se greffe à cet olivier et qu'on reçoit avec honneur nos pères. Et cette parole de Malachie qui dit « Dans les derniers temps, l'Esprit d'Élie viendra, et les pères se tourneront vers les fils vers les pères. » Je pense que les pères, c'est aussi Israël, voyez, qui se tourne vers les fils. Et nous avons été bénis par ces rabbins là-bas, par ces gens de la Knesset, et on a été accueillis, bénis. Et je pense que les pères se tournent vers les fils, et les fils se tournent vers les pères. L'Esprit d'Élie, c'est ça aussi. Et Seigneur, merci pour cet Esprit d'Élie. Et la Bible dit que l'Esprit d'Élie est celui qui va restaurer toutes choses. Et je pense qu'il y a une réforme et une restauration des nations qui se laisse souffler sur elles, l'Esprit de réconciliation et l'Esprit d'Élie. Merci Seigneur. J'appelle ta bénédiction sur chacun d'entre nous, Seigneur. Cet alignement plus profond dans nos cœurs, que toute racine d'antisémitisme soit ôtée, arrachée, que ce soit dans les générations qui ont précédé. Seigneur, pardon pour cela et merci pour l'affranchissement, merci pour le jubilé, merci pour les 70 ans. Nous croyons que nous sortons de toute captivité dans le nom de Jésus. Amen.
Je ne sais pas si on prendra un autre temps, mais on veut aussi, Seigneur, se positionner en tant qu'Alsacien. Huguette, si tu veux bien venir. Dans ce que nous avons entendu, Seigneur, nous reconnaissons la bénédiction qu'a reçue cette terre d'Alsace. Je veux te laisser prier, toi, Huguette, tu es alsacienne. Moi, je veux le faire déjà en tant que représentante d'église et de réseau. Seigneur, je veux te demander pardon en tant que responsable d'église. Tu fais de nous des sacrificateurs. Nous te demandons pardon pour notre péché en tant qu'église dans cette région d'Alsace, d'avoir collaboré ou alors d'avoir, dans tout ce qu'on a entendu, être indifférent, de ne pas avoir soutenu, parfois même de s'être réjoui, de ne pas avoir compris. Te demandons pardon, Seigneur, de ne pas avoir été ce soutien auprès de ce peuple. Vraiment, te demandons pardon dans le nom de Jésus. Et nous reconnaissons et nous recevons ton sang, Seigneur. Ton sang qui lave, ton sang qui est plus que suffisant pour tous nos péchés, quels qu'ils soient.
Jésus, Seigneur, en tant qu'Alsacienne, je demande pardon pour tout le sang qui a été versé sur notre terre, pour tous les pogroms qui ont eu lieu sur cette terre d'Alsace, pour la persécution des Juifs, pour les mensonges comme quoi, Seigneur, ils étaient responsables de la peste, de toutes ces choses, Seigneur, qui ont eu lieu sur cette terre d'Alsace. Nous nous humilions devant ta face ce matin. Je m'humilie, Seigneur, et pour mes ancêtres, je m'humilie pour l'antisémitisme qui règne encore aujourd'hui sur cette terre d'Alsace. Pardon, Seigneur, et merci pour ton sang qui couvre nos fautes, ton sang qui pardonne, ton sang qui rachète. Et c'est vrai, Seigneur, pendant des décennies, cette terre d'Alsace a entendu des cris de joie, des cris de triomphe, des cris vraiment qui sortaient de la maison des Juifs. Toutes les fêtes juives, Seigneur, elles étaient, cette terre d'Alsace a entendu, a reçu. Et moi, je veux vraiment crier et appeler à une renaissance de ces choses. Seigneur, vraiment que cette terre d'Alsace entende tout à nouveau des chants juifs, qu'elle entende tout à nouveau ces cris de joie qui s'élèvent des tentes des justes, Seigneur. Et ouais, on appelle vraiment, Seigneur, et je crois vraiment que c'était une bénédiction que tu nous as donnée. Et on appelle le retour aussi de cette bénédiction sur cette terre d'Alsace. Merci pour ton pardon, pour ton sang qui est efficace encore aujourd'hui. Merci.
Et nous déclarons, Seigneur, la restauration, nous déclarons et nous appelons la réconciliation. Nous sommes reconnaissants pour ce triple héritage. Nous reconnaissons, Seigneur, cet héritage juif qui est dans cette terre et nous le recevons, Seigneur. Merci pour cette bénédiction. Merci parce que tu fais de cette terre un signe, une bénédiction de par ces trois héritages. Seigneur, que nous, tu fais de nous, Seigneur, alors que nous nous greffons sur Israël, tu fais de nous, tu fais de l'Alsace aussi une source de bénédiction. Au nom de Jésus.
Voilà, je crois qu'en ce... En se positionnant comme ça, il y a une huile de présence de Dieu qui veut passer dans tous les rouages de nos vies et de l'Église. Et je pense que c'est une des réponses aussi au niveau de la puissance que Dieu veut libérer, puissance de guérison, d'amour, en étant bien positionné. Voilà, nous sommes dans une génération particulière, les amis. Hein. On vit des temps absolument remarquables. Marie-Christine, tu avais... Ah oui, pardon.
En fait, cette déclaration du jour de l'indépendance hein, qu'on a faite là-bas, on l'a faite en plus en présence d'un rabbin membre de la Knesset qui était pleinement avec nous, qui en pleurait d'émotion et qui après a dansé avec nous pour voilà, vraiment se réjouir de ce qui se passait dans les lieux célestes. Et voilà. Donc cette déclaration, on peut, chacun de nous, hein, on peut la signer en ligne. Alors bon, c'est en anglais, en ligne, mais je l'ai imprimé en français. Donc c'est le texte que Luc a lu. Hein. Je l'ai imprimé en français, c'est 2 pages, hein, une feuille recto verso. Et je peux la fournir à qui veut la voir en français. Hein. Et je peux donc aussi vous donner le... Oui, voilà, ça va être envoyé à l'église, d'accord. Avec l'adresse mail où on peut aller signer en ligne sa déclaration, comme on fait une pétition en ligne, voilà. Hein. C'est une prise de position qui est importante. Et je crois que c'est un positionnement, mais... je sais pas... Ils disent pas clairement à qui ils vont le transmettre, mais je crois que c'est un positionnement important parce que bon, c'est derrière tout cet antisémitisme, il y a vraiment la puissance de Zeus. Hein. C'est voilà, il y a une puissance spirituelle très très forte qui est derrière tout ça, et ça fait des siècles et des siècles, et on a vraiment besoin non seulement de nous repentir, mais aussi de poser des actes concrets. Et le fait de signer cette pétition en ligne, c'est une prise de position qui est importante, quoi.
Voilà, on vous souhaite un bon dimanche.